Les Canuts, deuxième partie, chapitre 2. Les rideaux de l'alcôve étaient relevés. Couché sur le grand lit, tout habillé, la mère Jacquemin dormait du dernier sommeil. Le corps rigide, la tête soulevée par un oreiller, le visage bouffi au ton de cire, faisant tache sur la blancheur des draps, le nez pincé, la morte pressait un chapelet de bois entre ses mains inertes. Sur de longs chandeliers de cuivre, quatre cierges brûlaient, répandant une odeur de sacristie. Agenouillés au pied du lit, les deux hommes sanglotaient. Marius contenant sa douleur, le père en désespéré, avec des spasmes qui le secouaient tout entier. Dans un coin, appuyé contre le pied d'un métier, Zabé pleurait aussi, au souvenir des bontés de la défunte. Par moments, la porte s'ouvrait discrètement. C'était un voisin ou une voisine qui venait voir la morte, prenait sur la table au chevet le rameau de buis trempant dans un verre d'eau bénite et, après avoir aspergé le corps, s'en allait sur la pointe des pieds. Les femmes s'agenouillaient pour dire une prière. La mère Jacquemin avait trépassé la veille, vers 10 heures du matin. Amené par Louise, le curé de la paroisse était venu l'administrer. Consolée et prête pour l'autre monde, elle avait ensuite causé paisiblement avec son mari et son fils. Elle se sentait mieux et ne souffrait plus. Mais ses forces l'abandonnaient peu à peu. Quelques instants après, comme elle faisait un effort pour se mettre sur son séant, son âme était partie. Des pas montaient lourdement l'escalier. La porte s'ouvrit. Le menuisier entra, chargé de la bière. La veille au soir, il était venu prendre les mesures. Une dernière fois, Marius embrassa la morte et, de force, entraîna son père, qui s'était jeté désespérément sur le corps. Il l'emmena dans sa chambre. Madame Dénégris venait d'entrer avec Mademoiselle Olympe Verchères pour procéder à l'ensevelissement. L'enterrement devait avoir lieu à 2 heures. Déjà, dans la rue, en face de l'allée, des groupes stationnaient. C'étaient quelques parents, des amis de la famille, des gens du quartier, ouvriers et petits négociants. Les uns entraient chez Paclet pour boire un canon en attendant l'heure. D'autres se promenaient de long en large, le parapluie sous le bras. La plupart, rangés devant le bureau de tabac et l'échoppe de Peju, causaient de la défunte. Pour dire quelque chose, on attribuait sa maladie à ces mauvais brouillards qui ne s'en allaient plus. On entendait au troisième le marteau du menuisier qui, à grand bruit, enfonçait des clous dans le couvercle de sapin. Bientôt, le commissaire arriva. Moustache et barbiche grise, raide dans son col de crin, il monta faire la levée du corps. Au coin de la rue, presque aussitôt, déboucha un vicaire en surplis, le livre de prière à la main, dans son étui de velours. Devant lui, l'un portant la croix, l'autre l'eau bénite et le goupillon, marchaient 2 clergeons blonds et maigres, les cheveux coupés ras, les oreilles saillantes, sous leurs petites calottes noires plantées derrière la tête, leurs soutanelles trop courtes montrant leurs pantalons sur de gros brodequins. Puis, d'un pas traînard, déhanché, s'avancèrent 4 porteurs aux vêtements noirs fripés, la face jaune et imberbe, avec des nez rouges et des cheveux plats tombant sous leur chapeau crasseux, il semblait ne point avoir de linge. Ayant déposé devant la porte le brancard et le drap mortuaire, ils montèrent. Tandis que le menuisier sortait, le marteau à la main, sa besogne faite. Les groupes se rapprochèrent. Peugeot fermait son échoppe, afin de suivre le convoi. Paclet quitta sa boutique après les buveurs. Les demoiselles Verchères et les voisins arrivaient en robe noire. On entendit bientôt, dans l'escalier, le pas lourd des porteurs descendant le cercueil. Débouchant de l'allée étroite, ils le placèrent sur le brancard et le recouvrirent du drap noir croisé de blanc. Louise, les yeux rouges, accompagnait sa mère avec deux couronnes, l'une d'immortelles jaunes, apportée par Marius, l'autre de buis, qu'elle-même avait acheté. Elle les disposa sur le cercueil, celle-ci aux pieds, celle-là à la tête. Le commissaire sortit, puis le clergé et la famille. Jacquemin parut, tout tremblant, les cheveux en désordre, son mouchoir à carreaux sur les yeux. Marius et Martinon le soutenaient. À la hâte, le cortège se forma. En tête, les clergeons et le prêtre. Ensuite, le commissaire. D'un vigoureux effort, les porteurs chargèrent le cercueil sur leurs épaules. Le vicaire entonna le « Liberame » et l'on se mit en marche. Derrière le corps venaient les parents, puis les amis. Jacquemin était connu et estimé à la Croix-Rousse, surtout depuis les événements de novembre. Et beaucoup tenaient à lui donner cette marque de sympathie. À la queue suivait la masse des indifférents, des gens venus là parce qu'ils étaient du quartier ou qu'ils faisaient partie, comme Jacquemin, de la société des mutualistes. Le cortège descendit, à droite, la grande côte, pour gagner l'église Saint-Polycarpe, par la rue Vieille-Monnaie. Malgré leur avancée, il faisait un brouillard pénétrant. L'eau suintait à travers le pavé et les murs. Sur les portes, les boutiquiers de la grande côte, presque tous marchands d'ustensiles pour la fabrique, se pressaient, regardant passer cette longue file de gens. Des ouvriers revenant du magasin, la sache de toile bleue ou le rouleau de bois sur l'épaule, se découvraient en croisant le convoi. À l'entrée de la rue Vieille-Monnaie, le vicaire entonna le Miserere. De leurs aigres fossés, les clergeons accompagnaient la voix du prêtre. On pénétra dans l'église. Sous la sombre nef, imprégnée de parfums d'encens, des femmes çà et là s'agenouillaient avec des grincements de chaises répétés par l'écho des voûtes. Les porteurs posèrent le brancard sur les dalles et les gens du cortège se logèrent, sans ordre, dans les bas-côtés. Marius voulait faire asseoir son père. Jacquemin ne voulut pas. Il se mit à genoux et, la tête dans ses mains, recommença à sangloter. Credo quod redemptor, commença le prêtre, se hâtant, précipitant ses phrases. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. La cérémonie fut courte. C'était un enterrement de pauvres. Pendant que le vicaire récitait le Pater Noster, les assistants vinrent, un à un, asperger le corps d'eau bénite, se faisant passer le goupillon de main en main. Et nenos inducas in tentationem. Sed liberanos a malo, répondaient les clergeons. Requiem aeternam donai domine. Et lux perpetua luceat ei. L'officiant fit un signe. Les porteurs rechargèrent le brancard sur leurs épaules. Une, deux. Et l'on repartit, le prêtre disant l'antienne omne quod dat. Le convoi descendit la rue Rosier, droit devant l'église, et prit la grande rue des Capucins, pleine, à cette heure, du mouvement de la fabrique, encombrée de camions et de portefaix. Respectueusement, les gens se rangeaient sur le passage du corps. La rue des Auges était coupée par une tranchée. Des puisatiers réparaient un égout. On fit un détour par la rue des Bouchers et, longeant d'étroites ruelles, on déboucha sur le quai d'Orléans, en face du pont Lafeuillée. Le pont franchi, on traversa la place de l'ancienne douane, où stationnaient les vieux omnibus jaunes et rouges, desservant la banlieue. Puis, on se mit à gravir la montée Saint-Barthélemy. À la hauteur de la maison d'Henri IV, les porteurs s'arrêtèrent pour souffler et changer d'épaule. Celle qu'ils portaient pesait son poids. Du revers de leurs manches, ils essuyaient leurs faces ruisselantes de sueur. Haletant, les jarrets rompus, ils se seraient volontiers reposés une dizaine de minutes, mais le commissaire avait hâte d'en finir. Ils crachèrent dans leurs mains et reprirent le brancard. Abîmé dans sa douleur, Jacquemin pleurait toujours et se laissait presque porter par son fils et Martinon. Marius avait tant pleuré que ses yeux étaient secs. D'ailleurs, il fallait avoir de la force pour deux, puisque son père était si abattu. En lui-même, il se promettait d'être plus affectueux que jamais pour le pauvre vieux, maintenant qu'il n'y aurait plus de femme à la maison. Le convoi longeait l'Anticaille. Aux fenêtres grillées, qui donnaient sur la montée, des fous inoffensifs, qu'on laissait plus libres, regardaient au dehors, à travers les barreaux. L'un d'eux, à la vue du convoi, se mit à chanter à tue-tête le De Profondis. Grave, les yeux ardents, il entremêlait le psaume funèbre de couplets bachiques, tandis qu'à côté de lui, un idiot, coiffé d'un bonnet de coton, riait d'un rire niais, la bouche fendue et grimaçante. À ce spectacle, d'un mouvement convulsif, Jacquemin, les yeux perdus, se rejeta dans les bras de Marius, dont la douleur se réveilla tout entière et qui se remit à pleurer. Derrière eux, la conversation était presque générale, contenue dans les premiers rangs, débraillée dans les derniers. Tant qu'on avait marché dans les rues, on avait mis un frein aux langues. À présent qu'on cheminait entre des murs, on ne se gênait plus. Le père Besacier, qui venait à 10 pas du cercueil, son parapluie sous le bras, causait métier avec un gros canut de Saint-Just. Il affirmait que le taffetas se faisait plus régulier aux marcheurs. Son compagnon donnait la préférence aux battants à la main. Ils ne parvenaient pas à s'entendre. Grincheux, Besacier lâcha son interlocuteur et descendit quelques rangs plus bas. Là, il en trouva un autre qui, par hasard, fut de son avis. Alors, à qui mieux, ils déblatérèrent contre les imbéciles qui, par routine, restaient attachés aux vieux outils, sans savoir reconnaître les bonnes innovations. De nouveau, les porteurs s'étaient arrêtés. Besacier évalua le poids du fardeau. La mère Jacquemin devait peser 220. Elle était corpulente. Avec la bière et le brancard, ça devait faire un joli poids, et les croque-morts en auraient leur sou en arrivant à Loyas. Tout à fait à la queue, Nerbolier, sans gêne, fumait sa pipe et faisait le jobard pour faire rigoler. Et c'était d'indécents éclats de rire qui s'entendaient des premiers rangs. On arrivait sur la place de Fourvière. Un aveugle, assis sur une borne, le chapeau entre les genoux, un bonnet de laine noire enfoncé sur les oreilles, implorait la charité d'une voix dolente. Des vieilles anguenilles venaient offrir des cierges. Le convoi poursuivit sa route par la rue du Juge de Paix et la rue des Quatre Vents. Dans ces voies étroites, bordée de murs. Les pas lourds résonnaient, et la voix du prêtre montait, chantant le Benedictus. Après une suite de chantiers pleins de pierres tombales et de monuments funéraires, on se trouva tout à coup à l'entrée du cimetière, avec ses murs d'enceinte surmontés de grands ifs et sa haute barrière noire, toute grande ouverte, qui semblait attendre. À 50 pas de là, un cabaret étalait son enseigne, au repos de la montée. Sur le seuil, le patron, ancien fossoyeur, échangea un regard d'intelligence avec les porteurs et, d'un œil exercé, dénombra les gens du convoi. Son compte fait, il rentra préparer le saucisson funèbre et tirer du vin. On entrait dans le cimetière. Le cortège, maintenant, faisait silence. Le respect des morts s'imposait. Chacun des assistants avait là quelques parents, dont le souvenir lui était cher. La grande allée, large comme une rue, bordée de caveaux et de monuments riches, s'étendait entre deux rangées d'ormes rouillés de moisissures. On prit une allée à droite et on se dirigea vers un vaste champ semé de petites croix de bois. Au milieu s'élevait une vieille croix de pierre au piédestal couvert de couronnes et de fleurs fanées. Là venaient prier les pauvres, la multitude de ceux qui n'avaient pu acheter une concession pour leur mort. La fosse creusée attendait sa proie. Un trou béant dans la terre brune, avec des débris d'ossements, çà et là confondus avec les cailloux. On s'arrêta. Le prêtre, sur le bord de la fosse, avec les clergeons. Les assistants, tout autour, en troupeau, piétinant sur les tombes. Les porteurs déposèrent le brancard. L'un d'eux enleva les couronnes, un autre le drap. Le prêtre jeta de l'eau bénite sur la fosse et se mit à réciter des oraisons, pendant que deux fossoyeurs, péniblement, descendaient à l'aide de cordes le cercueil au fond du trou. D'une voix grave, « Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris. » Et, prenant le goupillon des mains du clergeon, le prêtre aspergea le cercueil. Quand ce fut son tour, Jacquemin eut un suffoquement. Tout petit, au bord de la fosse, le dos voûté sous son vieil habit, sa figure de brave homme, torturé par la douleur et inondé de larmes, il restait là, prêt à défaillir. Marius et Martinon le tiraient doucement par le bras. Quand il s'aperçut qu'on attendait le goupillon, il parut se décider à grand-peine. « Ah, mon Dieu » murmura-t-il. « Adieu, ma pauvre femme !» Vite, Marius l'entraîna dans une allée, loin de la foule. L'un après l'autre, les assistants vinrent jeter de l'eau bénite. Le goupillon passait de main en main. Dans le grand silence du cimetière, on n'entendait que le bruit des pelletées de terre tombant sur le bois du cercueil, et, s'éloignant, les sanglots de Jacquemin. Déjà, les fossoyeurs, pressés d'ouvrage, commençaient à combler la fosse. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, bredouillèrent les clergeons impatients de partir. Requiescat in pace, reprit le prêtre d'une voix profonde et lente. Et tous s'en allèrent précipitamment, tête basse, à travers les tombes et les arbres verts. Maintenant, dans le cimetière vide, les fossoyeurs, la sueur au front, piétinaient sur la fosse recouverte à la hâte, et, au repos de la montée, les porteurs, joyeusement, buvaient les 100 sous que Marius leur avait glissés.